Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce 32e numéro de Lecture en tête à tête, une émission littéraire mais pas que. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Yara El-Gadban. Bonjour Yara.
Bonjour Anne-Sophie.
Yara, tu résides à Montréal, tu es écrivaine, éditrice mais aussi traductrice. Depuis le 6 mars, tu es accueillie en résidence itinérante en Pays de la Loire à l'initiative du collectif Lettres sur Loire et d'ailleurs. C'est un collectif de structures littéraires de la région, parmi lesquelles on trouve, entre autres, la maison Julien Gracq, la maison de la poésie de Nantes, mais aussi Lecture en tête. Au moment de cet enregistrement, tu as déjà parcouru la région, de Nantes à Angers en passant par Le Mans. Tu as participé à quelques rencontres avec des lycéens, des étudiants, mais aussi avec le grand public, notamment dans le cadre du festival Atlantide. Et là, tu as posé tes valises quelques jours à Laval. Déjà, cette première question, comment se passe cette résidence ?
Ah, elle est merveilleuse, vraiment merveilleuse. Je connaissais pas trop la région de la Loire. Je connaissais le vin, par contre. Mais c'est extraordinaire. Ça faisait très longtemps que je voulais visiter, par exemple, Nantes. Ce que j'adore, c'est de rencontrer les gens, rencontrer les lecteurs, rencontrer les publics, rencontrer les lycéens. J'aime beaucoup parler avec les jeunes, qui à chaque fois me remplissent d'espoir. Mais c'est un véritable cadeau, vraiment. Et je dis merci, et vraiment merci à tous les partenaires, tous les organismes qui m'accueillent, qui me gâtent. Vraiment, c'est extraordinaire.
Justement, vu du contexte actuel, il faut rappeler que la région supprime en 2025 nombre de subventions allouées, entre autres à la culture et au milieu associatif. Est-ce que tu peux nous dire en quoi une résidence pour un écrivain, une écrivaine, mais aussi pour un artiste, hein, quel qu'il soit, musicien, comédien, en quoi c'est important une résidence ?
Mais en fait, pour les artistes, pour les écrivains, moi par exemple, le roman La danse des flamants roses, j'aurais pas pu l'écrire si je n'avais pas fait des résidences. Ça permet de se dépayser, de prendre du temps pour soi, de réfléchir, d'entrer dans le temps de la littérature, quoi. Mais surtout, avec une résidence itinérante comme ça, mais c'est la chance de rencontrer des lecteurs et des lectrices que jamais j'aurais eu la chance de rencontrer sinon. Donc pour moi, c'est une découverte, ça me fait grandir aussi, parce que les questions ne sont pas les mêmes. Les gens arrivent avec des perspectives, des lectures qui m'étonnent, qui m'émerveillent. C'est pas simplement une question c'est pas un luxe, hein, c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. Moi, je ne serais jamais venue à Laval si je n'avais pas été invitée. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Je n'aurais pas pu rencontrer les lycéens que j'ai rencontrés hier. Je n'aurais pas pu vous rencontrer. Donc, je pense que c'est absolument nécessaire. Et en fait, la culture, aujourd'hui, plus que jamais, est nécessaire. Donc, il faut la soutenir, il faut la supporter. C'est pas un jeu, quoi. C'est fondamental.
Comme pendant le Covid, on a dit la culture est essentielle. Bon, je pense que depuis, beaucoup l'ont oublié, notamment chez nos institutionnels. Enfin, pas tous, hein, mais voilà, la culture a été un peu abandonnée depuis. Pour préparer ta venue et cette interview, j'ai un petit peu fouillé sur les internets et j'ai pu remarquer que tu as un parcours migratoire des plus atypiques. Tu es née à Dubaï, de parents réfugiés palestiniens. Tu as vécu successivement à Londres, à Buenos Aires, à Beyrouth, à Dubaï, à Sanaa au Yémen. Aujourd'hui, tu résides à Montréal, qui est ton port d'attache, ta ville refuge depuis 30 ans. Comment se construit-on lorsqu'on a vécu l'exil tout au long de son enfance, lorsqu'on a grandi déraciné ?
C'est intéressant parce que je n'avais jamais connu une autre condition de vie. Et c'est seulement après... après avoir eu mon passeport canadien, parce qu'avant, je n'avais pas de statut, j'avais des papiers de réfugié. Et donc, pour moi, voyager, c'était toujours une expérience traumatisante, pleine d'incertitudes. D'ailleurs, je ne comprenais pas la notion, par exemple, de voyager pour le plaisir. Pour moi, voyager, c'était toujours soit pour se sauver, soit parce qu'on a été déporté, soit parce qu'il y a la guerre. Donc, effectivement, je pense que ça transparaît dans tout ce que j'écris. Mais ça me fait, en fait, bizarrement, je pense que ça me fait aussi grandir parce que je suis obligée toujours d'être confrontée à d'autres cultures, à d'autres histoires, à d'autres langues et je suis habitée par tous ces lieux-là.
Oui, c'est pas forcément négatif.
Non, mais en fait, c'est négatif dans le sens que je ne l'ai pas choisi. Sauf qu'après, je peux décider aussi de créer de ces conditions quelque chose qui, en fait, qui grandit mon imagination, qui me permet d'avancer, qui me permet d'évoluer hein, comme être humain. C'est ça, l'écriture me permet peut-être de donner sens à ces expériences-là. Moi, je me suis toujours posé la question, comment se fait-il qu'il y a des gens qui peuvent, on en a parlé d'ailleurs l'autre jour, qui peuvent naître, grandir, vivre, vieillir et mourir dans leur village sans jamais avoir à être déplacé ou à se déplacer. Et moi, tout ce que j'ai connu, c'est le déplacement. Donc ça, c'est une question, je pense, qui traverse tout ce que j'écris et à travers tous mes personnages.
Justement, en 2011, tu entres en littérature en publiant « L'ombre de l'Olivier », ton premier roman, dans lequel tu racontes l'enfance et les réflexions d'une jeune Palestinienne exilée à Dubaï. Quel a été le déclic pourquoi être passée à l'écriture? Est-ce qu'il y a eu un besoin, une nécessité?
Je ne sais pas quel a été le déclic exact. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait lire, donc la littérature a toujours fait partie de ma vie. Mais j'ai jamais eu comme rêve de devenir écrivain. C'est ça qui est drôle. J'étais beaucoup plus portée vers la musique. Mais en fait, j'avais 33 ans, je crois, quand j'ai publié L'ombre de l'Olivier. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a comme un cumul d'expériences. Tu cours, de la migration à la citoyenneté, fonder une famille, finir les études, aller au travail. Et puis là, à un moment donné, on s'arrête, puis on se tourne un petit peu, puis on commence à regarder, quel est ce chemin, pourquoi je suis là? Et c'est à ce moment-là qu'on commence à écrire. Mais on commence à écrire un peu pour essayer de comprendre. Souvent, moi, j'écris à partir d'une incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Comment se fait-il que j'écris en français? Comment se fait-il que tout à coup, je ne comprenais pas mon propre parcours, quoi. Et en écrivant, j'essayais peut-être de me donner des réponses que la vie peut-être ne m'a pas données. Ou peut-être que j'avais enfin un peu la disponibilité mentale, physique, psychologique, de me poser ces questions. Et voilà que l'écriture est venue un peu me sauver.
Hier, tu disais aux lycéens que tu as rencontré, donc t'as rencontré une classe de terminale HLP au lycée Ambroise-Paris, à Laval. Tu leur disais que tu parles 4 langues, c'est ça?
Mais je maîtrise 3 langues.
3 langues.
Je baragouine dans 2 autres langues.
et pourtant, tu as choisi le français pour écrire tes romans. Il y a un essai aussi. Alors que le français n'est pas ta langue maternelle. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il s'est imposé tout naturellement?
Oui, en fait, cette question me fait toujours un peu sourire. Parce que je me dis, mais le français, c'est une langue qui m'appartient aussi. Elle m'appartient autant que l'arabe et l'anglais. Donc pour moi, ce n'est pas comme si je prenais un organe étranger et que je me l'appropriais. Ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de mon expérience de vie. Maintenant, c'est peut-être la langue que j'ai appris au moment où j'étais plus peut-être autonome, parce que j'avais 13 ans, alors que l'anglais et l'arabe, j'étais trop jeune pour même décider si je veux bien parler cette langue. Enfin, une, c'est ma langue maternelle, et l'autre, c'est une langue que j'ai appris alors que j'étais à la maternelle. Et c'est une langue que j'aime. C'est vraiment aussi simple que ça. Je la trouve belle. J'arrive à trouver mes mots, ce que j'ai envie d'exprimer. J'arrive à le trouver en français. Ce n'est pas difficile. Mais ce que je dis aussi, c'est souvent un peu en blaguant. Je dis aux gens, mais vous savez, je triche. Dans le sens où ce que vous lisez, c'est le français. Mais sachez que ce français-là, il est métisse. C'est un français où on a toutes les traces de toutes les langues que je parle, auxquelles je me suis frottée. Donc c'est pas ton français, c'est un autre français, c'est un français de quelqu'un qui a vécu dans tous ces pays-là.
En 2015, tu publies Le Parfum de Nour, un deuxième roman, un roman sur l'exil, l'identité et la perte de la patrie. Et en 2018, ce troisième roman, Je suis Ariel Sharon, un roman dans lequel tu explores cette figure controversée qu'était Ariel Sharon, en faisant le parallèle entre l'exil subi par sa famille et sa communauté et celui que vivent les Palestiniens. Tes trois romans, donc L'ombre de l'olivier, Le parfum de Nour et Je suis Ariel Sharon, forment une sorte de triptyque où sont abordés de façon récurrente les thèmes de l'exil, de la quête d'identité, de la Palestine et du conflit israélo-palestinien. Était-ce ton intention de départ que de faire ce triptyque et est-ce que tu voulais dire certaines choses? Est-ce que tu avais besoin de dire ou de transmettre certaines choses?
Je pense que je voulais essayer de comprendre ma propre histoire et essayer de la comprendre à partir de toutes les perspectives et toutes les expériences qui ont façonné cette histoire. Et donc, veux pas, mon histoire est liée à l'histoire d'Ariel Sharon. Parce que son histoire a eu un impact mais terrible sur ma propre histoire. Et donc, c'est dans ce sens-là que... Et puis, ces trois romans-là, peut-être si on les détache de La danse des flamants roses, parce que ce sont trois romans où on creuse un petit peu l'expérience palestinienne, où je regarde justement l'histoire. Que ça soit ma propre histoire familiale, mon parcours dans L'ombre de l'olivier, ou bien, par exemple, la question de l'exil et les traumatismes de l'exil dans Le parfum de Nour, et d'ailleurs, Le parfum de Nour se passe en partie aussi à Gaza. Et dans ce troisième roman, je me suis dit, je veux comprendre comment on devient Ariel Sharon, l'ancien premier ministre israélien, et qui, jusqu'à Netanyahou, était considéré comme la figure qui a fait le plus de mal aux Palestiniens. Et c'est dans ce sens-là que... Et peut-être que je devais passer à travers ces trois romans-là avant de pouvoir regarder vers l'avenir. C'est comme une espèce de ménage que l'on fait avec soi-même. Pas pour dire que c'est résolu, parce que je vais revenir quand même toujours à l'histoire. Elle est toujours, toujours là. C'est pas comme si je l'oublie. Mais ça m'a permis, franchement, de... peut-être de dépasser quelque chose, de dépasser un certain nombre de nœuds. Et ça m'a permis aussi de constater véritablement le pouvoir de la littérature. J'ai jamais senti autant la puissance de la littérature qu'en travaillant ce roman sur Ariel Sharon, Je suis Ariel Sharon. Parce que comme je le dis toujours, mais lui et moi, jamais on n'aurait pu nous rencontrer ou se parler dans la vraie vie. Et voilà que je lui parle et même j'écris son histoire grâce à la littérature. C'est quand même extraordinaire.
Avec des ressemblances, des différences, mais aussi des ressemblances dans un parcours.
Oui, mais s'il y a une chose que j'essaie de peut-être d'exprimer dans ce roman-là, c'est que reconnaître la souffrance de l'autre n'enlève rien à ta propre souffrance. N'enlève rien à la légitimité aussi de ta cause, de tes revendications, de tes droits aussi. Au contraire, moi, ça me libère comme écrivaine et ça me libère comme palestinienne.
On va faire une petite pause musicale. Un morceau de ton choix, Yara, Les Flamants Roses de Jean Leloup, et on revient juste après.
Sur le chemin de terre, ils avaient aligné les corps et les vautours faisaient des cercles autour. Dans la cour de l'école, on bastonnait les dissidents pendant que regardaient en rang les étudiants. Dans les maisons pleuraient les pères et mères, les camions verts transportaient les militaires. Les flamants roses ciel encore. Et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Flamants roses volent dans le ciel encore. Et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Malgré les morts gisant dans la poussière, les flamants roses éclatent de lumière. Comme les montagnes s'allume dans le noir, sous la lueur lunaire, dans la neige du soir. Quand les corbeaux se meurent pour un bout de terreur, les flamants roses s'en vont vers le soleil.
Retour pour ce Lecture en tête-à-tête avec Yara El-Gadban. Donc nous venons d'écouter Les Flamants Roses de Jean Leloup. Pourquoi ce choix de chanson, Yara ?
Ah mais c'est mon quatrième roman qui s'appelle La danse des Flamants Roses. Jean Leloup, c'est un chanteur québécois très très connu. Quelqu'un avait lu le roman et m'avait tout de suite écrit en me disant « Est-ce que tu savais que Jean Leloup avait écrit une chanson qui s'appelle Les Flamants Roses ?» Et la chanson, en fait, ce que la chanson dit, qu'il y aura toujours de l'espoir, l'aurore arrivera tout le temps tant que les Flamants Roses volent dans le ciel. Et je pense que ça représente très très bien la danse des Flamants Roses, qui est un roman utopique, qui est un roman d'espoir.
Donc, belle transition pour pouvoir parler maintenant de ce quatrième roman, La danse des Flamants Roses, qui est sorti en août dernier aux éditions Mémoire d'Encrier. Donc, la danse des Flamants Roses est un roman d'anticipation, situé dans une époque pas si lointaine que ça, enfin, de mon point de vue. Donc, la mère morte s'est évaporée et la maladie de sel s'est développée, décimant une grande partie de l'humanité. Néanmoins, quelques personnes ont survécu, des hommes et des femmes, et ensemble ils vont rebâtir une communauté avec de nouveaux codes, de nouveaux rites. Pourquoi Yara avoir imaginé ce contexte apocalyptique dans cette partie du monde, et que représente cette communauté ?
Déjà, pour moi, c'est pas un contexte apocalyptique. effectivement, le roman commence par la fin du monde, mais c'était simplement un prétexte pour faire renaître un nouveau monde. Et c'est pourquoi dans le roman, en fait, le premier chapitre, il est assez rapide et assez différent du reste du roman. Mais l'idée du roman est venue vraiment d'une frustration. C'est-à-dire que moi, en tant que Palestinienne, tout ce qu'on me renvoie comme image de la Palestine, ou même comme perspective d'avenir, c'est qu'il n'y a pas d'avenir. En tout cas, pas pour les Palestiniens. Il n'y a pas d'avenir, sauf rester sous occupation ou colonisation ou nettoyage ethnique ou déportation. En tout cas, rien qui, pour moi, me semble intéressant pour les êtres humains. Encore moins les Palestiniens. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens refusent d'imaginer un avenir pour la Palestine ? Et si les gens refusent d'imaginer cet avenir-là, qu'est-ce que moi je peux faire ? Eh bien, je vais l'imaginer moi-même. Je ne vais pas attendre que des politiciens décident que j'ai le droit à un avenir. Donc, je suis écrivaine, je peux l'inventer, je peux le créer. Et c'est dans ce sens-là que le roman est né. Il est né de mon désir. C'est aussi un roman que j'ai écrit en pensant à mes enfants. Je l'ai d'ailleurs dédié à mes enfants, mes deux filles, parce que je veux aussi leur dire qu'il y a un avenir pour vous, à Kinda et Zada, et il vous appartient si vous arrivez à l'imaginer et si vous en fait travaillez pour le créer, si vous luttez plutôt pour le créer, parce que c'est pas juste une question de travail, c'est de lutter contre tout un système en fait qui veut les empêcher en fait d'avoir un avenir. Donc c'était un peu comme une espèce de lettre d'amour que j'envoie à mes enfants pour leur dire, voilà, non, il n'y a pas que la mort, la haine qui vous attend. Il y a autre chose qui vous attend. Et voilà ce que moi je vois. Et j'aimerais bien que vous puissiez habiter cette utopie-là, qu'elle vous appartienne.
Dans ce roman, donc, il y a cette communauté, il y a des hommes, des femmes, des enfants aussi. Et il y a un personnage qui symbolise tout particulièrement cette communauté, il s'agit d'Aleph. Qui est-il et que représente-t-il ?
Alors, le roman commence par l'évaporation de la mer morte, ce qui est un fait, c'est ça qui est en train d'arriver en ce moment, et la maladie du sel qui se répand partout, et ces survivants qu'on avait relégués dans la vallée de la mer morte, derrière le mur, en pensant qu'ils allaient tous mourir, eh ben, ils survivent. Ils survivent et ils reconstruisent cette communauté en harmonie non seulement entre eux, comme êtres humains, mais avec les vivants, donc avec les autres animaux, et plantes, fleurs, tout, et évidemment les flamants roses. Et dans cette vallée-là, le premier enfant naît, c'est Aleph. Donc Aleph qui veut dire, en fait, qui renvoie à la lettre A, et en arabe et en hébreu. Et du coup, sa mère est palestinienne et son père est israélien. En tout cas, il l'était avant l'évaporation. Après l'évaporation, ça n'a plus vraiment le même sens. C'est leur histoire, mais ce n'est pas leur avenir. Et voilà, donc il symbolise un peu cette renaissance, ce commencement d'autres choses en Palestine.
Là, tu en parlais, c'est vrai qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture, on découvre une communauté qui, au-delà du vivre ensemble entre êtres humains, tente de vivre en harmonie avec tous les vivants, quels qu'ils soient, animaux, végétaux. On a parlé des flamants roses. Pourquoi avoir imaginé une communauté en totale connexion avec le monde des vivants ? Est-ce aussi pour toi une façon de sensibiliser les lecteurs à cette nature, à notre environnement qu'on ne cesse de malmener ?
Oui. Enfin, mais c'est drôle parce qu'au départ, l'idée n'était pas de faire un roman écologique, honnêtement. C'était pas la prémisse du roman. Mais dès qu'on entre dans cette réflexion sur dans quel monde j'aimerais vivre, c'était devenu pour moi inévitable que je devais réfléchir à l'avenir de la planète. Parce que je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que ça donne d'avoir une Palestine libre où tout le monde est heureux sur une planète qui meurt ? Ben ça ne veut rien dire d'avoir un pays libre sur une planète ou dans une planète qui meurt. Et j'étais confrontée même aux limites de ma propre utopie. Et j'ai compris très vite que je devais un peu me décentrer, et me décentrer pas seulement de mon identité, mais de me décentrer même de mon anthropocentrisme, de l'idée que tout tourne autour de l'humanité et que nous sommes les maîtres du monde et tout ça. Et ça a complètement changé, en fait. L'utopie a pris à ce moment-là une véritable forme, et le principe était devenu non seulement le vivre ensemble, mais de vivre en acceptant que les humains sont des vivants parmi les vivants et non pas les maîtres des vivants, non pas les maîtres de la terre. Ils font partie d'un cercle qui les dépasse et ils doivent accepter qu'ils peuvent un jour être prédateurs et l'autre jour être la proie. Et dès qu'on commence par ce principe-là, alors toute l'écriture change parce que là, du coup, la perspective des animaux devient importante. Même les termes animal, nature, on se rend compte à quel point ces termes-là sont des termes en fait pour détacher l'humain du reste des êtres vivants, quoi. Et j'ai dû même retravailler tout mon langage pour essayer d'éviter tous ces termes-là, culture, nature, humain, animal. Et c'est pourquoi je parle beaucoup des vivants. C'est le mot qui devient un peu le leitmotiv de tout le roman.
Et les flamants roses, ils ont quelle place dans cette communauté ?
Alors, les flamants roses sont ces oiseaux extraordinaires qui peuvent vivre dans les conditions les plus difficiles. Ils sont les seuls à pouvoir se nourrir et se reproduire dans les marais, qui sont des marais saumâtres, alcalins, même toxiques en fait pour les humains. Et je me suis dit, dans cette vallée où tout est devenu sel, comment ils vont faire les humains pour survivre ? Ils ne savent rien, ils ne savent pas comment vivre dans cet environnement-là. Et les flamants roses, donc, qui s'installent dans la vallée, deviennent à la fois leurs compagnons et leur guide. Et ils sont donc en dialogue, et j'aime beaucoup aussi, parce que l'organisation des flamants roses, ce sont des oiseaux grégaires, des oiseaux qui vivent toujours en communauté, qui font tout ensemble, qui se partagent les tâches et les responsabilités, et ce sont des oiseaux pacifiques. Donc, je me suis dit, c'est un bel exemple, et en plus, ils sont beaux.
Justement, est-ce que tu peux nous lire un extrait de la danse des flamants roses ?
Oui, avec plaisir. Alors là, ça c'est un extrait, on parlait tout à l'heure de rituel. Donc l'un des rituels s'appelle la sarha. Et la sarha, c'est un moment donné où on envoie les enfants, en fait on les laisse partir dans la vallée, errer, sachant qu'ils peuvent ne pas revenir. Et l'idée de ça, c'est d'accepter que ces enfants font partie du cercle des vivants. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent revenir ou ils peuvent ne pas revenir. Ils peuvent être dévorés ou ils peuvent revenir avec un butin ou tout ça. Et ici, Aleph, donc, c'est lui qui est responsable de la sarha. Et il explique un petit peu ce rituel. C'est la journée de la sarha. Il commence déjà à faire trop chaud pour les excursions après le lever du jour. Faudrait entamer la balade plus tôt. Bientôt, le soleil pressera sa main brûlante sur le sol et écorchera tout ce qui est à sa portée. Les geysers cracheront vapeur, sel, poison. Des bourrasques balayeront la plage et engouffreront le sable dans les gorges. L'air sera irrespirable. On a passé l'hiver à ramasser l'eau dans les lits des rivières qu'on appelle Wadi et les dolines avant qu'ils ne s'assèchent. C'est au tour des enfants d'arpenter la vallée rouge, d'apprivoiser les couleurs, les crevasses, les geysers, de dénicher les ondes d'ombre et d'eau en suivant le mouvement du soleil et en humant le vent, d'identifier les plantes fourragères, de trapper les damans. Traquer les prédateurs avant qu'ils ne nous traquent, les chacals, surtout les léopards et les hyènes, faciles à retracer grâce à leurs excréments blancs. Je les accompagnerai jusqu'à la chute de Wadi el-Khabat, comme le veut la tradition. Nous passerons la journée à attendre, moi, les autres habitants. Certains des parents, comme les enfants, avaient attendu fébrile le début de l'aventure. Nous attendrons en espérant qu'avant le coucher du soleil, nous les reverrons. Leur silhouette à l'horizon, aux contours déformés par ce que les enfants auront ramené sur le dos, dans les bras ou traînant derrière eux. Nous attendrons les visages brûlés par le soleil, les visages ensanglantés par des rencontres imprévues avec les vivants, ou encore la peau ridée d'avoir trop bu de l'eau ou scintillant de sel. Nous nous réunirons devant la grotte d'Isaac et de Zainab, là où ils avaient été bébés ensemble dans la crèche de la sage-femme. Là où les habitants danseront la danse des flamants pour fêter une sarha réussie, la trompette d'Isaac sifflant dans la nuit, là où il nous arrive aussi de pleurer l'absent ou l'absente, l'enfant que la vallée ne nous rendra pas. Nous ne pleurerons pas longtemps. Nous dansons pour la vie comme pour la mort.
Voilà. Merci Yara.
Ça fait plaisir.
Je disais tout à l'heure que la danse des flamants roses est sortie en août 2024, donc il y a 7 mois. J'imagine qu'en 2023, tu étais en pleine écriture ou en relecture. Et puis, il y a eu le 7 octobre 2023, les attaques du Hamas. Est-ce que, déjà savoir, à ce moment-là, est-ce que tu te rappelles où tu en étais dans l'écriture de ton roman ? Et est-ce que ces attaques ont impacté le cours de l'histoire de ton roman ?
Parce que oui, le cours de l'histoire, oui.
Le cours de l'histoire tout court, oui.
Hélas.
Est-ce qu'il y a eu un basculement ? Est-ce que tu as... il y a des personnages. Est-ce que ça a modifié un peu le récit ?
Oui. Mais c'est drôle parce que le roman... l'idée du roman m'est venue... en 2018. Donc, c'était bien avant et la pandémie et évidemment les événements du 7 octobre. Et le 7 octobre, je pense que j'étais à la dernière lecture du roman. J'étais en train de travailler un petit peu, retravailler la dernière version du roman. Et j'étais en fait, j'étais dévastée. J'étais dévastée par les événements, j'étais dévastée par la suite. Et j'avais l'impression que ce roman n'avait plus sa place, que c'était devenu complètement anachronique, que ma vision utopiste était même relevée même de l'illusion ou de la délusion. Et j'allais vers mon éditeur, je lui disais, ça ne veut plus rien dire ce roman, et mes personnages sont trop gentils, la vision est trop optimiste. Et j'essayais en fait de changer le roman. Je voulais rendre mes personnages un peu plus obscurs, un peu plus méchants, un peu plus, je ne sais pas, même créer quelque chose comme une trahison. En fait, j'essayais de répondre à toute cette violence qui me happait. Et c'est lui qui me disait, c'est lui, en fait, je dois remercier Rodney Saint-Éloi, mon éditeur, à Mémoire d'Encrier, et qui m'a dit, non, Yara, non. En fait, à chaque fois, je lui venais avec une idée, puis il me disait, écris-la à côté. Ça sera pour un autre livre. Puis là, je lui revenais. Puis là, il me dit, non, à côté. Puis là, il refusait, mais vraiment, il ne voulait rien savoir. Et à un moment donné, il m'a dit, mais pourquoi tu veux laisser l'actualité dicter ta vision du monde ? C'est ta vision. Elle t'appartient. C'est ta liberté. C'est pourquoi tu veux donner ça ? Donner cette victoire à toute cette violence-là. Alors, reste fidèle à ta vision du monde. Écoute, je deviens émotive quand je pense à ça. Et le 6 décembre, et donc Rifat El-Araïr, le poète Rifat El-Araïr, a été assassiné. C'est lui qui avait écrit le poème « Si je dois mourir, à vous de raconter mon histoire » et à fabriquer des cerfs-volants. Et dans le désarroi de cette mort-là, en fait, j'ai rêvé de lui. J'ai rêvé de lui qui me disait, qui me répétait sans arrêt, ce roman est un cerf-volant, ce roman est un cerf-volant, ce roman est un cerf-volant. Je me suis réveillée à 3h du matin et j'ai écrit la petite note pour Rifat El-Araïr, qui est une note de l'auteur avant le roman, et en disant, ce roman est un cerf-volant. Et c'est comme si sa voix m'avait donné la permission d'écrire le roman et de le garder exactement tel quel. Donc, je n'ai absolument rien changé. J'ai simplement écrit la petite note de reconnaissance à Rifat El-Araïr parce que c'est lui qui m'a permis, en fait, de préserver le roman tel qu'il est. Et aujourd'hui, j'avoue que je suis très contente de n'avoir rien changé. Et je vois aussi l'effet que le roman... qu'il a ce roman-là sur les lecteurs, le nombre de lettres que j'ai reçues de gens qui me disent « Merci, merci, parce qu'on est découragé, on est défait, tu nous redonnes foi en l'humanité, tu nous donnes... » Et franchement, ça, c'est très précieux. Donc, je suis contente que mon éditeur a un peu imposé son autorité en me disant « Ne touche pas au roman » et je suis reconnaissante à Rifat El-Araïr.
Parce qu'il est vrai que La danse des flammes roses, malgré le contexte, c'est un roman lumineux, politique, poétique.
Il est politique en étant poétique.
Et empreint d'espoir. Oui. En 2023, tu as été interviewée par Philosophie Magazine et tu as dit à propos de ce roman-là, je te cite, « Dans ce roman, j'ose inverser le discours et j'imagine un contexte où la Palestine est le seul endroit où l'on peut encore vivre sur la planète. J'ai eu envie de créer un univers parallèle pour montrer qu'un autre monde est possible si on a le courage de l'imaginer. On me demande souvent comment je peux encore garder l'espoir, mais c'est très simple, je n'ai plus que ça. » Yara, est-ce que l'espoir est encore là? Et qu'est-ce que tu espères aujourd'hui?
Oui, l'espoir est là. Et parce que je n'ai pas le luxe de désespérer. Pour moi, désespérer, c'est condamner tous ces Palestiniens qui essayent de survivre à un génocide, à la mort. Donc, je n'ai pas ce luxe-là. Mais voilà, je suis... En fait, je suis en sécurité, je n'ai pas de bombe qui me tombe sur la tête. Mais qui suis-je pour désespérer? Au contraire, il faut que je fasse mon travail comme écrivaine. Et il y a le poète Mahmoud Darwish qui dit une chose et qui vraiment pour moi, c'est peut-être ma devise de vie. Et il dit toujours qu'il faut que chacun et chacune participe à l'entreprise de l'espoir. C'est le devoir de chacun et chacune de participer à l'entreprise de l'espoir. Et je considère que c'est mon devoir. Maintenant, avoir de l'espoir, ça ne veut pas dire simplement espérer, quoi. Et il faut travailler, il faut dénoncer, il faut manifester, il faut dire la vérité sur ce qui se passe. Moi, je le fais à travers mes romans, en essayant de rappeler peut-être aux gens qu'il y a d'autres possibilités, parce que ce n'est pas simplement une question de contester à tout ce qu'on nous dit, d'accepter la guerre, accepter la haine, accepter les armes, accepter tout ça, accepter un génocide. Mais c'est aussi de proposer des possibilités, de rappeler aux gens qu'il y a d'autres possibilités, parce que ça fait partie de la chose, c'est d'empêcher les gens d'imaginer autre chose. Et ça, les écrivains, on sait très bien comment le faire. Imaginer d'autres choses. Donc je me dis, bon, ça c'est mon métier, ça c'est mon travail, et ça c'est mon devoir. Et je le fais pas, c'est pas comme si je me donne pas une mission, c'est un peu arrogant de le faire. En fait, je le fais pour moi-même. Je le fais vraiment pour moi-même parce que c'est ça qui m'encourage à avancer. Cet univers-là, je l'ai créé pour moi d'abord et ensuite pour mes enfants. Parce que je veux donner forme à cet espoir-là, quelque part. Je me suis dit, bon, mais il faut que je le crée, il faut qu'il soit concret, il faut qu'il soit tangible. Et c'est de là que ce roman est né.
Avant de conclure cette émission, Yara, on va écouter un autre morceau de ton choix, Cheek to Cheek, une chanson de Louis Armstrong avec Ella Fitzgerald. Pourquoi ce morceau?
Ah, parce que je le cite dans le roman, il y a un personnage musicien, il y a toujours de la musique dans mes romans, puisque je suis musicienne, et il y a un trompettiste qui joue cette chanson. Le soir, quand tous les habitants se rassemblent, ils dansent ensemble, Cheek to Cheek.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you, the charm about you will carry me through to that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Yes,
dance with me. I want my arms about you.
Cheek to cheek, un morceau qui donne la patate. Hein. Ici, on est à fond. En tout cas, un grand merci, Yara, de t'être prêtée à cette interview, à ce numéro de Lecture en tête à tête. Je rappelle que ton roman La danse des flamants roses, mais aussi tous les autres, hein, L'ombre de l'olivier, Le parfum de Nour et Je suis Ariel Sharon, sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. Et à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous du 24 au 27 avril pour le 33e Festival du premier roman et des littératures contemporaines qui se déroulera au 40 à Laval. La programmation est déjà disponible au format papier, un peu partout sur le département et également sur notre site festivalpremierroman.fr. Merci Yara.
Merci beaucoup.